Les cours du Collège de France, chimie des processus biologiques, Marc Fontcave.
Bonjour, merci d'être là donc, pour la poursuite de ce cours. On a passé deux séances avec du climat, du CO2, du climat, des climatologues. Et on va passer maintenant, à partir de maintenant jusqu'à la fin des séances de cette année, d'ailleurs ça se poursuivra l'année prochaine, sur la question énergétique. Et pour commencer, on va parler d'électricité. Au fond, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile. Enfin, dans un ensemble difficile, mais c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile. Et je suis très très heureux que mon cours se poursuive ensuite par la présentation d'un très grand spécialiste de la question nucléaire, Yves Bréchet, qui va... Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de nucléaire, introduire le nucléaire, mais Yves va nous parler de ce dont vous avez déjà entendu parler, sans doute, c'est les réacteurs de quatrième génération, les neutrons rapides, et nous expliquer comment ça marche et quels sont les potentiels. Alors, vous vous souvenez qu'on a bien dit la dernière fois que, en effet, il fallait limiter nos émissions de CO2, puisque c'est de ça qu'il s'agissait quand on parlait de changement climatique. Et donc, j'ai déjà présenté cette figure. Voilà ce que on nous dit de faire. Alors, ce n'est pas une cour pour la France, c'est pour la planète. Nous sommes à 40 gigatonnes d'émissions de CO2 et le GIEC nous dit, enfin il ne nous dit pas faites ça, il nous dit si vous voulez maintenir la température à 1,5 degré en 2100, il faut que votre courbe d'émissions de CO2 ait à peu près cette allure, c'est-à-dire que vous arriviez à zéro émission de CO2 en 2050. C'est vertigineux, ça l'est tellement que je vais vous dire que c'est impossible. D'ailleurs, ça l'est déjà en France. Je vous ai montré le niveau de température déjà, d'augmentation de température en France. On est déjà au-dessus de ce 1,5 degré. Souvenez-vous, enfin pour ceux qui étaient là, que François-Marie Bréon nous avait rappelé que ce zéro carbone devait tenir compte aussi des puits de carbone. Hein. Puits de carbone naturels, mais artificiels, c'est-à-dire tout ce que peut faire l'homme pour enlever du CO2 de l'atmosphère. Et c'est pour ça que tous les objectifs en cours, hein, si on prend la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, qui est celle qui nous dit en France où on doit aller, vous voyez que la réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2050, c'est divisé par 4. Ce n'est pas réduite à zéro, parce qu'on inclut les puits de carbone. Hein. Il faut avoir ça en tête. Et c'est pareil pour Fit for 55, qui est l'objectif de la Commission et du Parlement européen. C'est réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030. Bon, c'est à peu près le milieu de la courbe. Hein. Si ça, c'est à peu près linéaire, ça veut dire que c'est cette pente-là. Alors, il y a quand même un certain nombre de difficultés pour faire ça, c'est ce que je vais illustrer par quelques propos. Le fait que personnellement je dis que ceci n'aura pas lieu. J'ai fait une liste, mais on pourrait la multiplier. C'est évidemment que ce sera très très difficile de se passer complètement des énergies fossiles. Que tout un tas de pays... et sans doute les plus nombreux vont continuer à les utiliser, que la population mondiale va augmenter, on l'a dit la dernière fois, et que donc la quantité d'énergie va augmenter, que tous les véhicules ne seront pas électriques, il y aura tout un tas de mobilités qui ne seront pas électriques, et puis par ailleurs, on aura l'occasion de le dire, un véhicule électrique n'est pas zéro carbone, donc c'est pas parce qu'on passe du véhicule thermique à l'électrique qu'on a zéro carbone. Nous aurons des besoins massifs de carbone encore, hein, je le montrerai, tout ne sera pas électrique. Il est impossible d'imaginer un monde où toute l'énergie serait électrique. Et puis, comme on a en projet de construire des tas de choses à très grande échelle, hein, pour la France, des réacteurs nucléaires, et pour tout le monde, des parcs éoliens, des parcs solaires, évidemment, tout cela va demander à très court terme des quantités massives d'énergie. À un moment donné, on n'aura pas que des énergies bas carbone, et des matériaux, et massivement des matériaux qui sont très émetteurs, parmi les plus émetteurs des matériaux, ciment, acier, etc. Voilà, 100% de notre électricité ne sera pas renouvelable non plus, j'expliquerai pourquoi, et puis tout le CO2 qu'on émet ne sera pas capturé et séquestré, voilà, tout ça n'arrivera que partiellement. Donc, c'est la situation. Et en effet, c'est un problème global, je l'ai déjà dit. Ici, vous avez la contribution des pays les plus émetteurs. Vous avez évidemment, c'est aussi une information qu'il faut donner, c'est pas les émissions totales, mais aussi les émissions par habitant. Les classements varient évidemment en fonction des habitants, de la taille des pays, mais néanmoins, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des très gros émetteurs comme la Chine, les États-Unis, l'Inde. L'Allemagne est le plus gros producteur européen, plus gros émetteur. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais la France, c'est à peu près 0,8% des émissions de CO2 mondiales, et j'expliquerai le plus 1% tout à l'heure. Et donc, voilà, en prenant en compte tout cela, évidemment, on s'aperçoit très bien que l'action ne peut pas être menée à l'échelle d'un pays ou de quelques pays, mais qu'il faut que ce soit mené globalement. Et je répète, voilà, si la France disparaissait de la planète à l'instant, ça ne changerait rien au réchauffement climatique si, par ailleurs, les autres pays ne s'engageaient pas dans une voie de défossilisation massive. Ça, c'est un premier élément. On le voit dans la globalité. J'ai pris quelques articles de journaux. Il y en a tous les jours. Hein. Vous voyez, le Niger table sur l'énergie pour doper sa croissance, donc il mise sur ses réserves de pétrole. La Chine multiplie les projets de centrales à charbon. Il y a l'équivalent de 2 grandes centrales à charbon par semaine en Chine. Des projets de nouvelles centrales dans 34 pays. 600 projets de centrales à charbon en Asie. Bon, voilà la réalité. Autre exemple, le véhicule. Aujourd'hui, il y a 1 milliard de véhicules sur la planète. Et en effet, le basculement vers le véhicule électrique, 1 milliard de véhicules thermiques, hein, bien sûr, le basculement vers le véhicule électrique est parti, et vous avez des études prospectives de ce type-là, ici c'est Bloomberg, NF, qui montrent qu'en 2040, on pourrait arriver à 500 millions, à peu près 500 millions de véhicules électriques, formidable, c'est une vraie révolution. Sauf que par le biais de la croissance, par le biais de l'augmentation de la population, la quantité totale de véhicules sur la planète, c'est 1,5 milliard. Donc il y aura le même nombre de véhicules thermiques en 2040 qu'aujourd'hui. Alors, il est évidemment classique d'accuser la Chine, l'Inde, etc., mais l'Europe ne fait pas tellement mieux. Quand on regarde, ici c'est une carte qui indique les pays qui ont fixé une date pour la sortie du charbon. Voilà, on voit bien qu'on n'a pas de leçon à donner. Ici, vous avez en rouge, en noir, vous avez tous les pays qui n'ont pas encore fixé de date de sortie. En rouge, vous avez l'Allemagne, d'ailleurs, là-dedans, 2038. Vous avez tous les pays qui ont prévu de le faire assez tard. Et puis vous avez tout un tas de pays qui ne l'ont pas encore fait parce que ça s'étale entre 2024 et 2030. Donc, il y a encore du charbon en Europe. Voilà, alors pourquoi c'est si difficile? C'est évidemment parce que ces énergies fossiles sont absolument extraordinaires. C'est une source d'énergie absolument incomparable. Et clairement, il y a une parfaite corrélation entre l'utilisation de ces sources d'énergie, la croissance de la consommation énergétique, la croissance du PIB, et puis tout un tas de paramètres qui montrent que plus on les utilise et plus l'état du monde s'améliore. Ici, c'est des corrélations entre PIB, espérance de vie, population, énergie. Vous voyez, tout ça va ensemble. Et ici, vous avez par exemple une courbe qui montre très clairement que l'espérance de vie est fonction de la consommation d'énergie. Alors, il y en a qui exagèrent, ici, le Qatar, par exemple, qui pourrait consommer moins. Mais on voit très bien que l'espérance de vie est très faible pour les pays qui consomment le moins d'énergie. Alors, j'ai déjà montré cette image, hein, deux hommes préhistoriques qui discutent et qui disent il y a quelque chose qui est étrange. Notre air est propre, l'air qu'on respire est propre, l'eau est pure, on fait plein d'exercices, tout ce qu'on mange est bio, en quelque sorte, et pourtant on ne dépasse pas l'âge de 30 ans. Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui nous avons ces énergies qui nous permettent en effet de vivre mieux. Alors, ça c'est assez intéressant, ça vous explique pourquoi ces énergies fossiles sont si formidables. Ici, si vous rapportez la densité d'énergie volumétrique, la quantité d'énergie par unité de volume sur la quantité d'énergie par unité de masse, évidemment, ce qui est le mieux, c'est ce que vous allez trouver en haut à droite. Hein. Le plus d'énergie dans le plus petit volume et dans la plus petite masse. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve nos fossiles, nos énergies fossiles, et tout le reste est beaucoup moins bon. Voilà. L'hydrogène, le fameux carburant du futur, enfin, ça fait 30 ans qu'on l'appelle le carburant du futur, est formidable en termes de densité d'énergie par unité de masse. Par contre, c'est un gaz, donc par unité de volume, c'est mauvais. Et les batteries, c'est le pire de tout. Sa densité d'énergie par unité de volume et de masse est très très faible, se retrouve complètement dans l'autre extrême. Et puis, cette question de décroissance, hein, dont on nous parle, c'est évidemment un problème de riches, puisque évidemment il y a tout un tas de gens qui vont arriver, de nouveaux qui vont arriver sur la planète, hein, pas loin de 2 milliards, et comme je l'ai dit la dernière fois, essentiellement en Afrique, mais il y a toujours 700 millions de personnes sans électricité, il y a 4 millions de personnes par an qui meurent de maladies imputables au manque d'énergie. Il y a 1,6 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, et ça demande de l'énergie pour avoir accès à l'eau potable. Voilà, donc tout ça fait que, en effet, la consommation d'énergie va augmenter, et la consommation et donc l'utilisation des fossiles vont se poursuivre à un certain degré, malgré évidemment tous les efforts qu'on doit engager, dont on va parler. Ça, c'est aussi une chose intéressante, hein, c'est-à-dire que pour soigner l'environnement, il faut de la croissance, il faut de l'énergie, il faut du PIB. Ici, vous avez une étude qui est assez intéressante, qui a été développée par deux universités américaines, Yale et Columbia, qui ont défini un indice de performance environnementale, donc qui prend en compte les émissions de CO2, la qualité de l'air, la propreté de l'eau, la gestion de la biodiversité, la gestion des forêts, etc. La durabilité des systèmes agricoles. Et ici, vous avez une courbe qui rapporte ce paramètre, cet indice, en fonction du PIB. Et là aussi, on voit très bien que ce sont les pays riches qui ont les meilleurs indices. En effet, s'occuper de l'environnement, c'est aussi un problème d'énergie. Et la France est 12e dans ce classement. Dernier élément qui montre à nouveau pourquoi nous avons besoin d'énergie, c'est un autre index, hein, Human Development Index, de l'UNESCO, qui prend en compte l'espérance de vie, la durée de vie en bonne santé, la connaissance, l'éducation, et puis le niveau de vie. Et là aussi, comme vous le voyez, cet indice est fonction de l'énergie consommée par tête d'habitant. Il n'y a pas de secret, il faut de l'énergie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de société sans énergie. Faire croire que la solution est uniquement dans la décroissance, ça pose un problème de mon point de vue. Alors parlons de l'électricité. Voilà le type de scénario qu'on peut voir dans tout un tas d'études. La réponse est là, oui, nous n'allons pas vers de la décroissance de consommation d'énergie à l'échelle de la planète, mais vers une croissance tout à fait significative. Hein, c'est la courbe en noir ici. Et l'électricité suit. Mais il y a tout un tas de scénarios qui, évidemment, indiquent, et c'est assez probable, que la consommation d'électricité va augmenter à un taux plus rapide que la consommation d'énergie globale. Le monde sera plus électrifié demain, c'est sans aucun doute. Alors pourquoi ? Pourquoi défossiliser ? Alors je vous l'ai déjà dit, je crois, j'essaye d'utiliser le mot défossiliser parce que je n'aime pas le mot décarboné, pour des raisons que j'ai déjà explicitées, à savoir que... Évidemment, le carbone, nous en aurons besoin. Même sans fossiles, il faudra du carbone. Donc défossiliser, c'est électrifier, tout simplement parce que si la question est de se débarrasser du charbon, du gaz naturel, du fioul, du pétrole, dont vous avez ici les chiffres d'émissions de CO2 en grammes de CO2 par kilowattheure d'électricité produite, s'il s'agit de remplacer, il faut trouver les autres sources d'énergie qui peuvent les remplacer. Et quand on regarde ce qu'on a sous la main, eh bien on a à nouveau éolien, solaire, hydraulique, nucléaire, et tout ça est électrique. Et ces énergies bas carbone ne sont qu'électriques, et donc il y a un certain nombre d'usages fossiles qu'on veut faire passer sur l'électrique. Donc l'électrification, c'est ça. La question, c'est, et c'est un enjeu majeur de la transition énergétique partout, et en France en particulier, c'est, et ça vous le verrez dans les scénarios que je présenterai, il faut augmenter la quantité d'électricité. Aujourd'hui, c'est 470 TWh à peu près la consommation électrique en France. Et donc, on va l'augmenter. Comment on va faire pour passer à 500, 600 ? Il y a des scénarios qui parlent de 750, 900 TWh. Donc ça sera une vraie révolution pour un pays comme la France qui est déjà très, très électrique. Hein. C'est ce que je montre ici. Alors, il y a beaucoup de chiffres, mais... je vais juste montrer quelques chiffres. Il y a vraiment un problème avec cette... Non, ça tient pas. Amit, tu peux demander, s'il te plaît, que ça marche pas du tout, là. Merci. Est-ce que ça, vous voyez, la flèche ? Très bien, excusez-moi. Donc, la consommation d'énergie totale en France, c'est 1600 TWh. Et vous voyez, la consommation électrique, c'est 470 TWh. Et en France, sur l'ensemble de l'énergie, il y a à peu près 60% qui revient aux fossiles. C'est évidemment beaucoup moins que la moyenne mondiale, dont on a dit qu'elle était à peu près à 80. Et puis si on regarde la partie électrique uniquement, eh bien, ce dont on s'aperçoit, c'est que d'abord la production est plus grande que la consommation. Donc ça c'est les chiffres 2019, hein. 2022 a été un peu particulier, mais on peut en discuter. Mais en situation normale, la France est exportatrice d'électricité. pardon. Et où est-ce que c'est là? Et peut-être revenir ici, quand on regarde cette production électrique, ici c'est les chiffres de 2021, eh bien on s'aperçoit que pratiquement la France se retrouve dans une situation parfaitement idéale, avec plus de 90% de son électricité qui est, alors on dit décarbonée, mais qui n'est pas totalement décarbonée, puisque vous avez vu ici que ce n'est pas zéro les grammes de CO2 par kilowattheure pour ces énergies à la fois renouvelables et nucléaires. Ce sont des énergies, appelons-les bas carbone. Et donc, c'est une sorte d'exploit quand on le compare à d'autres pays dans le monde. Et cette performance, elle est facile à comprendre de la courbe qui est à droite ici, que j'ai déjà peut-être montré, qui montre la corrélation que vous trouverez parfaitement évidente. En bleu, vous avez les émissions de CO2 par kilowattheure électrique. Oui, ça ne marche pas, ça. Par kilowattheure électrique, donc vous voyez que ça monte quand on part de la Norvège jusqu'à l'Afrique du Sud. Et ce qu'on voit avec les barres verticales, c'est que plus vous avez de couleur marron, ça veut dire que plus on utilise de fossiles pour produire de l'électricité, plus vous émettez de CO2. Et à l'inverse, à gauche, plus vous avez en bleu de l'hydroélectricité, merci, ou du vert, et c'est le nucléaire, eh bien, vous avez les pays les plus vertueux en termes d'émissions de CO2 par kilowattheure, et on y retrouve la Norvège. La Norvège est le champion, parce que c'est essentiellement de l'hydroélectricité, et vous avez la Suède, la Suisse et la France, et la France, c'est l'autre pays très particulier qui a beaucoup de nucléaire. Et voilà comment la France se retrouve avec de faire partie des pays vertueux en termes d'émissions de CO2 pour sa partie électrique. C'est rarement dit, et donc j'en profite pour le dire. Et de fait, je voudrais dire quand même très très clairement que, je pense que Yves sera d'accord, que nous avons été obsédés par la décarbonation de l'électricité, alors que ce n'est pas le problème en France. D'accord ? Ici, le tableau n'est que... ce sont des chiffres qui sont traduits ici dans ce graphe. Ici, c'est la répartition de la consommation finale d'énergie suivant les différentes formes matérielles de l'énergie. Donc en noir, vous avez ce sont les fossiles. Et en bleu, c'est les sources décarbonées. Vous voyez que, c'est ce que je viens de dire, la partie électrique est totalement décarbonée, donc le problème n'est pas de décarboner l'électricité. Sauf à effectivement vouloir se débarrasser du nucléaire, on peut faire de l'éolien et du solaire, mais remplacer du nucléaire par de l'éolien et du solaire, ça ne décarbone rien du tout. Par contre, c'est ça le problème ici, c'est comment remplacer les liquides fossiles et les gaz fossiles. C'est ça l'enjeu principal, puisque en termes de liquide et de gaz, tout est fossile. Voilà, donc vous voyez ici la situation de la France. L'électricité, c'est 25%. La France est un des pays les plus électriques. La partie fossile, ici, c'est pour... il y a un peu de fossile dans la production d'électricité, mais... Voilà, toute la consommation des fossiles, c'est le chauffage, c'est le transport, c'est l'industrie, enfin, etc., etc. Donc c'est ça qu'il faut décarboner aujourd'hui, c'est pas tellement l'électricité. Et donc, au fond, tous les schémas, c'est... il faut probablement diminuer la consommation de ces liquides et de ces gaz, ça c'est, appelons-le, sobriété, si vous voulez, enfin, efficacité énergétique, etc. C'est augmenter la part décarbonée des liquides et des gaz. Alors on pense à tout ce qui vient de la biomasse, biocarburant, biogaz, etc. Même s'il faudra faire attention à ce que ces biogaz et ces biocarburants soient bien décarbonés, soient décarbonés en effet, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Et par ailleurs, il faut électrifier tout un tas d'usages et donc augmenter la part électrique et électrifier tout un tas d'usages qui impliquent de l'utilisation de fossiles et liquides ou gaz. Donc je trouve que ce schéma qui a été élaboré par Dominique Grand, que vous entendrez à la dernière séance, est tout à fait parlant parce qu'il montre exactement ce qui doit être fait. Alors, dans le camp de la France, je voudrais aussi mentionner cela, puisque vous savez, tout à l'heure, j'ai montré 0,8% plus 1%. Alors, en fait, quand on regarde les émissions de CO2 de la France, qu'est-ce qu'on s'aperçoit de la chose suivante, c'est qu'elle est divisée en deux, la partie bleu clair et la partie bleu foncé. Et qu'est-ce que c'est? La partie bleu clair, c'est la partie des émissions de CO2 liées à l'utilisation de choses qu'on produit en France. Et en foncé, c'est la partie des produits qu'on consomme en France, mais qu'on produit ailleurs, et donc qui émettent ailleurs, mais dont nous devons raisonnablement, que nous devons raisonnablement prendre en compte pour avoir une véritable idée de ce qu'est les émissions françaises. Et ce qu'on voit très directement ici, c'est que la partie territoriale diminue. Et souvent, les gens ne parlent que de celle-là, en disant « formidable, la France diminue ses émissions de CO2 ». En fait, globalement, ça ne bouge pas beaucoup, comme vous le voyez ici, parce que le total est à peu près stable. C'est tout simplement parce que on consomme de plus en plus de choses qui sont produites ailleurs et dans des pays très émetteurs, comme la Chine, par exemple. De sorte que, évidemment, ceci est le résultat de cette réalité-là. La France est un pays qui se désindustrialise, qui exporte ses activités, et ça se traduit, et je vous invite à lire ce livre là de Nicolas Dufour qui s'appelle « La désindustrialisation de la France ». Voilà, on voit la part de l'industrie dans la valeur ajoutée du pays, voilà la France. On peut comparer à l'Allemagne qui est relativement stable. La France est un pays qui se désindustrialise. On a perdu massivement des usines, on a perdu massivement des emplois, et ça, évidemment, c'est à prendre en compte. On ne peut pas se satisfaire de résultats de baisse des émissions de CO2 territoriales parce qu'on a désindustrialisé la France. Autre chose qui est important pour notre pays, c'est qu'évidemment, nous sommes totalement dépendants de ces fossiles. Ça, je crois que je l'ai montré la dernière fois, mais vous voyez... La facture énergétique, nous achetons tout notre pétrole et tout notre gaz ailleurs, c'est autour, ça varie évidemment, mais bon, je trace une ligne ici, c'est à peu près 40-50 au maximum milliards d'euros. Et quand vous voyez le déficit de la balance commerciale, vous voyez que ça varie entre 40 et 60, avec un record en 2021 et encore pire en 2022, je vais le montrer. Vous voyez, 163 milliards en 2022, c'est une catastrophe. Ce que vous voyez là, c'est que, effectivement, si nous n'avions plus cette dépendance vis-à-vis des fossiles, si nous pouvions nous en débarrasser, évidemment, ça aurait un impact colossal sur notre balance commerciale. Alors, la dernière raison, évidemment, pour s'attaquer à ce problème des fossiles, c'est également que même si nous devions rester longtemps à utiliser ces fossiles, ce sont des sources d'énergie qui ne sont pas infinies. Et donc, la Terre n'en contient pas une quantité infinie. Il y a un moment donné où ça sera difficile de récupérer le pétrole, le gaz. Alors quand, je ne peux pas vous le dire, c'est très difficile d'avoir des chiffres qui indiquent très clairement de quoi il s'agit. On a parlé régulièrement du peak oil, hein, du peak de pétrole, mais il continue de se déplacer avec le temps. Mais voilà, il y a tout un tas d'études. Ici, j'ai pris des courbes venant du chiffre projet qui insiste beaucoup là-dessus. Effectivement, il y aura à un moment donné une perte de production de ces fossiles et ça voudra dire qu'il y aura une tension sur ces ressources et il faudra donc, en effet, les remplacer. C'est une autre raison importante. Et évidemment, je rajoutais ici qu'il peut y avoir d'autres raisons. On l'a vécu cette année, enfin en 2022, d'autres raisons pour lesquelles il sera urgent de remplacer ces fossiles dès lors que nous sommes en conflit avec des pays qui sont des fournisseurs. Pareil pour le gaz, je n'en dis pas plus. Alors, voilà, donc, c'est quoi la transition énergétique ? De façon très simple, bah c'est ça. C'est dans une situation où on a, ici c'est en rouge, vous avez l'électricité, la partie non électrique, donc la première chose qu'il faut, qui est inscrite dans une transition énergétique, c'est la diminution totale, la diminution de la consommation totale d'énergie. La question c'est évidemment de savoir de combien. Qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui est acceptable dans une vision qui ne soit pas trop décroissantiste, parce que comme je vous l'ai dit, ça va poser des problèmes. Donc de combien? Est-ce que c'est de 10, de 25, de 50%? Alors si on prend ce qui apparaît aujourd'hui comme le scénario le plus accepté pour discuter de ces aspects-là, c'est-à-dire le scénario de RTE, Réseau et Transport de l'Électricité, qui est inscrit ici, vous voyez, nous sommes en 2020 là, ce qui est prévu, enfin ce qui est proposé, c'est une chute quand même considérable qui passe de 1600 à 1100 TWh, ce qui est assez considérable. Cette consommation d'énergie se fait en même temps qu'une diminution des énergies fossiles. Et c'est ce qu'on voit ici, puisque vous voyez que la partie charbon est faible en France, hein, donc rapidement elle disparaît. Le pétrole va totalement disparaître. Bon, c'est encore un schéma auquel je ne crois pas, mais c'est aujourd'hui le scénario de RTE. Et puis, comme vous le voyez, la partie gris clair, grise ici, c'est le gaz naturel. Donc, c'est aujourd'hui gaz naturel. Demain, on ne sait pas très bien s'il y aura un peu de gaz naturel, ce que je pense, et puis d'autres types de gaz, de type biogaz en particulier. Et puis la partie la plus en gris clair, qui est déjà conséquente, c'est tout ce qui est bois, déchets, chaleur, qui devrait aussi augmenter. Voilà à peu près les scénarios sur lesquels on peut réfléchir. L'autre aspect, c'est ce que j'ai dit, c'est augmenter la part électrique dans la consommation d'énergie. Et là, la question, c'est aussi de jusqu'à combien ? Est-ce que ça doit être 50% ou plus, ou moins ? C'est là-dessus que nous pouvons réfléchir. Si on regarde le scénario de référence de RTE, c'est 645 TWh qui est visé donc à comparer au 1100, donc c'est plutôt de l'ordre de 55-60% de l'énergie qui serait électrique. Mais passer de 470 à 645, et il y a des scénarios qui vont même au-delà, hein, vous l'avez vu, ça sera déjà un exploit. Et puis évidemment, ici, tout ne sera pas électrique, donc il y a la partie non électrique, et ça sera beaucoup du carbone. Et donc évidemment, il y a une question qui est rarement discutée, mais que je mets sur la table, c'est quel sera le carbone demain ? Il va falloir trouver des nouvelles sources de carbone, à très grande échelle, hein, biomasse, CO2, déchets. Pourquoi ? Parce que nous aurons besoin d'acier, même si on électrifie la production d'acier, on aura besoin de plastique, on aura besoin de béton, on aura besoin de médicaments, on aura besoin de carburant de synthèse, etc. Donc on aura besoin de carbone. Voilà. Bon, ça c'est une autre représentation. Disparition des énergies fossiles. Énergie thermique, partie thermique non électrique, bas carbone, et électricité de préférence bas carbone qui augmente. Alors, oui, j'insiste là-dessus, demain quel carbone ? Aujourd'hui, comme vous le savez, tout notre environnement est rempli de choses carbonées. Hein. Ici, j'en ai mis quelques-uns, excusez-moi, c'est en anglais, mais plastique, matériaux électroniques, fibres, solvants, détergents, insecticides, médicaments, etc. On aura besoin de tout ça quand il n'y aura pas de fossiles. Or, aujourd'hui, tout ça vient, il y a à peu près une centaine de milliers de produits chimiques, ce sont les produits de la pétrochimie, parce que ça vient pour l'essentiel du gaz, du pétrole, du charbon, un peu de la biomasse aujourd'hui, mais c'est ça. Et donc il faut bien voir que pour l'industrie chimique en particulier, la défossilisation c'est une double peine. Pourquoi ? Parce que les fossiles ne sont pas que une source d'énergie, elles sont aussi une source de carbone. Donc l'industrie doit trouver, enfin l'industrie, nous, hein, nous devons trouver un nouveau pour nous déplacer, nous habiller, construire des choses. Nous avons besoin d'énergie, mais aussi de carbone. C'est là-dessus que j'insistais. Et donc, effectivement, il va y avoir une sorte de vraie révolution qui va consister à se débarrasser de ces fossiles. J'ai laissé du gaz naturel parce que je pense qu'il en restera. C'est le moins émetteur, mais il va falloir exploiter les déchets, peut-être le CO2, évidemment la biomasse. J'en dirai plus dans d'autres cours à propos de la biomasse. Alors, électrifier, d'accord, mais électrifier quoi ? Donc, ça, c'est assez facile à répondre à cette question. Il suffit de regarder les usages les plus émetteurs. Et là, bon, bah, vous connaissez tout ça, hein, c'est évidemment, vous l'avez ici dans ce camembert, hein, c'est le transport, c'est le bâtiment ici, résidentiel, tertiaire, c'est l'industrie, la transformation d'énergie et l'agriculture. Je dirais très peu de choses sur l'agriculture pour le moment parce que c'est quelque chose que je n'ai pas bien en tête, mais vous avez bien compris qu'il y aurait de l'électrification de l'habitat et du tertiaire, notamment on parle beaucoup de pompes à chaleur, mais on aura le temps d'en rediscuter. Évidemment, électrifier les transports, c'est tout le boom sur les voitures électriques, hein, les batteries électriques, mais aussi quelle sera la part de la mobilité hydrogène et la mobilité avec les carburants de synthèse. Et puis électrifier l'industrie, c'est déjà en route, ça va jamais assez vite, mais c'est déjà en route. Les industriels, notamment ceux qui produisent ces composés, enfin ces matériaux et ces produits, acier, éthylène, hydrogène, aujourd'hui très émetteurs de CO2 parce que utilisant des fossiles, évidemment, il s'agit d'inventer des nouveaux procédés qui seront plus électriques pour produire cela. Alors c'est une formidable aventure, hein, de recherche, une aventure technologique, industrielle, qui est évidemment, qui doit mobiliser les chercheurs, les ingénieurs pour transformer ces procédés. Et puis, il faut savoir que l'industrie, c'est beaucoup de la chaleur, en réalité, et que donc, il y a aussi un enjeu à électrifier la production de chaleur, four électrique, etc., avec tous les problèmes que ça pose. Voilà. La France, le transport est un exemple, c'est un des plus gros émetteurs de CO2 sur la planète. Alors, je montre ça parce que, évidemment, nous sommes tous concernés, parce qu'en réalité, on est obsédés, enfin, certains sont obsédés par l'aviation, surtout les jets privés, mais c'est nous, hein, qui produisons le plus de CO2, hein. C'est le transport, c'est les voitures particulières, vous voyez, en France, c'est le transport routier de marchandises, hein, donc c'est pour nous, et le transport aérien, c'est uniquement 7% à l'échelle de la France. Et c'est pareil à l'échelle de l'Europe, hein, vous voyez, les voitures, c'est même 71%, ça inclut les camions, les voitures, etc. La navigation maritime, c'est 14%, et à nouveau, l'aviation civile, c'est un peu plus, mais c'est 13%. Donc, certes, il faut diminuer les émissions de l'aviation, mais c'est en très grande quantité les transports routiers. Voilà, alors, électrifier avec quoi maintenant? Et donc je vais aujourd'hui parler de nucléaire, introduire la question du nucléaire. Et puis je fais une remarque ici, je ne parlerai pas d'hydroélectricité, aujourd'hui c'est 60 TWh, il y a un peu de marge d'augmentation de cela, mais pas beaucoup. Je ferai l'hypothèse parfois qu'il y a zéro fossile, mais d'une manière générale, je maintiendrai le fait que si on doit se débarrasser des fossiles, bien évidemment il faut se débarrasser du pétrole et du charbon qui sont les plus émetteurs, et en toute probabilité, nous utiliserons du gaz encore très longtemps. Voilà, le nucléaire, c'est aujourd'hui c'est 56 réacteurs. Le dernier réacteur fermé, vous êtes au courant, c'est Fessenheim. Et il y a un réacteur, enfin, il y a une centrale qui est en cours de construction, qui est la centrale de Flamanville. Alors, juste des choses très... Excuse-moi Yves, mais... Je pense que chaque fois que je me dis... Mais ça, tout le monde doit le savoir, mais je crois que c'est bien de le rappeler, parce qu'en réalité, personne ne le sait très bien. Mais je vais l'expliquer très, très, très simplement. Donc on parle de fission nucléaire, et en effet, soumis à des neutrons... De l'uranium-235 subit une fission. Ici, voilà un type de réaction qui se produit. Et au cours de cette fission, on a deux choses qui se passent. Évidemment, on casse le noyau en deux, mais on produit de l'énergie et on produit plusieurs neutrons. Et c'est parce que on produit tous ces neutrons que la réaction, évidemment, peut s'emballer. On a une réaction en chaîne, évidemment, elle doit être contrôlée. Une réaction en chaîne, et donc à chaque rencontre d'un nouveau neutron avec un noyau d'uranium, on a cassure, production d'énergie et encore plus de neutrons. Et c'est comme ça que ça se passe. Et donc ça se passe dans le réacteur ici, et l'énergie produite chauffe de l'eau qui est sous pression dans un circuit primaire. Cette eau ensuite échange sa chaleur avec de l'eau qui est dans un circuit secondaire, ça vaporise l'eau et cette vapeur fait tourner une turbine et active un alternateur qui produit de l'électricité. Et cette vapeur est ensuite condensée par contact avec un circuit de refroidissement. Et ce circuit de refroidissement s'échauffe donc et rééquilibre sa température, en particulier au contact de l'air dans ces grandes tours qui sont qu'on appelle des aéro-réfrigérants. Et effectivement, ce qui sort de ces grandes tours, c'est de la vapeur d'eau et c'est pas du CO2 comme des fois on l'entend. Voilà. Alors, l'énergie nucléaire a tout un tas d'avantages et a aussi des inconvénients. D'ailleurs, d'une manière générale, il n'y a aucune source d'énergie qui n'a que des avantages. Nous avons à choisir entre sources d'énergie qui ont toutes des inconvénients. Alors, c'est une énergie de stock, hein, comme les fossiles, donc disponible toute l'année, pilotable en partie, on pourra en discuter. C'est évidemment une énergie très concentrée, donc on a une faible empreinte spatiale, c'est un avantage. C'est une industrie. L'industrie électronucléaire française est de niveau mondial, avec des compétences, avec de l'expérience, etc. Ce sont des machines qui durent longtemps. Comme vous le savez, il y a des discussions sur l'extension de la durée de vie des réacteurs. Ils ont été construits pour 40 ans, mais tout démontre, dans toutes les expériences du monde, qu'ils peuvent durer plus longtemps. Et on discute aujourd'hui de les prolonger, les Françaises, jusqu'à 50, peut-être 60. Et il y a des pays comme les États-Unis qui vont jusqu'à 80, et je crois même, j'ai entendu parler de 100. Donc ce sont des machines qui durent longtemps. C'est une énergie bas carbone, je l'ai dit, et puis l'empreinte matériaux est faible. Alors évidemment, il y a aussi des inconvénients. Il faut une gestion extrêmement stricte de ces installations. Sans doute, Yves le dira, mais c'est l'activité humaine sur la planète qui est la plus contrôlée. Le combustible, l'uranium, est en quantité limitée, hein, c'est une ressource minérale, il n'y en a pas des quantités infinies, mais on verra que peut-être cet aspect pourrait être traité par les réacteurs à neutrons rapides de quatrième génération. Il faut évidemment gérer les déchets radioactifs. Il y a eu des accidents nucléaires, Tchernobyl, Fukushima. Et puis, en effet, construire des réacteurs, ça prend un certain temps, surtout en France d'ailleurs, récemment. Et donc, en effet, il faut avoir une politique énergétique claire pour engager sans attente, parce que c'est assez long. Voilà. Ici, c'est juste. Alors, c'est très difficile d'avoir, par exemple, des données sur les empreintes spatiales ou les empreintes de matériaux quand on compare les différentes énergies, mais j'ai trouvé ce travail, je vous suggère de le regarder, dans Scientific Reports en 2022, qui est vraiment très très complet. Je pense que ça vaut le coup d'aller regarder ça. Et voyez ici. Alors ça, c'est une échelle logarithmique. Hein. Ici, elle n'est pas logarithmique, mais comme vous le voyez, si vous rapportez en térawattheure par kilomètre carré, vous avez ici le nucléaire qui est un peu mieux que le gaz naturel et qui est infiniment mieux que la plupart des autres sources d'énergie. Voilà. Alors, il y a les déchets radioactifs. Quelques chiffres quand même qu'il faut avoir. Nous produisons beaucoup de déchets. Mais la part des déchets radioactifs que nous produisons est très faible. Vous voyez ici, nous, en France, par habitant, nous produisons 13,8 tonnes de déchets professionnels. C'est le bâtiment, l'industrie, l'agriculture, les activités de soins, etc. 350 kilos par personne d'ordures ménagères. 100 kilos de déchets toxiques industriels, 2 kilos de déchets radioactifs, et 2 kilos de déchets radioactifs. Donc vous voyez que la proportion sur l'ensemble est faible. Et par ailleurs, tout n'est pas nucléaire. Hein. La partie nucléaire, c'est à peu près 60%. Ici, vous avez la recherche, vous avez la défense, vous avez le médical. Cette image est trop complexe pour la lire, mais juste vous dire que à peu près 17% du volume de ces déchets, donc la très grande majorité en volume de ces déchets, ne comporte que 0,2% de toute la radioactivité totale. Ce sont les déchets dits de très faible activité, les déchets de faible et moyenne activité à vie courte, les déchets de faible activité à vie longue. Tout cela contiennent peu de radioactivité et sont entreposés en surface. Et les problèmes principaux portent sur ces déchets de moyenne activité à vie longue, de moyenne activité à vie longue, et les déchets de haute activité. Donc ceux-là, ils sont directement issus des opérations des réacteurs nucléaires. Et là, bien évidemment, on trouve le reste de la radioactivité. Donc on a là presque la totalité de la radioactivité qui est concentré dans 3,3% du volume total, provisoirement entreposé en surface, et je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, mais le projet français, il y a d'autres pays qui ont le même type de projet, c'est une fois que tout ça sera validé, techniquement et politiquement, c'est d'aller stocker ces déchets les plus radioactifs, dans Cigéo, c'est-à-dire en couche géologique profonde. C'est une couche géologique d'argile hein, qui a été évaluée comme stable et imperméable, qui est à Bure, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne. Ce sont tout un tas de cavités dans lesquelles on va entreposer ces déchets à 500 mètres en profondeur dans le sol, c'est le projet français. Actuellement, il y a un laboratoire pour tester tout ça. C'est pas dans ce laboratoire qu'on va déposer les déchets. On construira, une fois que tout sera validé, on construira le site de dépôt final. Voilà. Alors, je veux terminer là-dessus. Je vous ai montré que l'énergie nucléaire avait notamment cet avantage, puisque aujourd'hui, et pour le reste des cours, nous discutons de comment pouvons-nous produire une énergie la plus décarbonée possible, la moins fossilisée. Et je vous ai montré que l'énergie nucléaire était l'une de ces énergies qui permettait une des sources d'énergie qui permettait de produire de l'énergie sans émettre trop de CO2. Or, on observe des choses curieuses, et en particulier en 2015, vos représentants à l'Assemblée nationale ont voté une loi qui s'appelle la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte dont j'ai parlé, qui indiquait l'objectif était de réduire la part du nucléaire dans le mix électrique de 70% aujourd'hui à 50%. Et quand ça a été dit en 2015, c'était projeté en 2025. Voilà le type d'objectif inatteignable, et d'ailleurs qui n'a pas été atteint et ne sera pas atteint, que des politiques peuvent proposer, et c'est dramatique, comme je vais le dire. Et la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été votée en 2019 a confirmé cette décision, mais l'a proposée pour 2035. Et donc ça incluait la fermeture de 14 réacteurs nucléaires en 2035. C'est toujours la loi qui est en cours, hein. Et ce qui est absolument fascinant, c'est que tout ça a été sur la base d'une projection que nous aurions, dans les années à venir, une baisse assez massive de la consommation d'énergie. Ce qui est assez étrange comme hypothèse, puisque quand on regarde, par exemple ici, la consommation électrique depuis 2000, elle n'a pratiquement pas bougé, et qu'on voit mal comment elle pourrait baisser. D'autant que je viens de passer trois quarts d'heure à vous dire qu'on allait électrifier le système. Donc c'est assez curieux ce genre de décision. Et puis il y a une autre chose qu'on ne vous a pas dite. On vous a dit on va baisser de 50%, mais on ne vous a pas dit qu'est-ce qu'on ferait après. Et c'est assez clair que si on ne fait rien, c'est-à-dire si on ne construit pas de centrales, compte tenu de l'âge moyen des centrales, et c'est ce qu'on voit ici, eh bien si on prolonge... si on prolonge tous les réacteurs jusqu'à 50 ans, ce qui n'est pas encore décidé, hein, eh bien en 2050, il n'y a plus de nucléaire du tout. Donc on a décidé pour la France de passer à 50%. On n'a pas dit où est-ce qu'on allait après. On n'a pas décidé de construire de nouveaux réacteurs. Et donc cette loi voulait dire en 2050, il y aura zéro nucléaire. Je veux juste mentionner que en 2021, l'Académie qui avait travaillé pendant un an et demi sur le sujet avait proposé de prolonger les centrales jusqu'à 60 ans, de construire de nouveaux réacteurs et de continuer la recherche et le développement des réacteurs du futur, ceux dont Yves va nous parler, les réacteurs à neutrons rapides, et notamment avec cet objectif très important de la fermeture du cycle électronucléaire. Tu veux en parler de la fermeture du cycle ? Ouais. Voilà. Et après tous ces atermoiements, hein, plusieurs mandats présidentiels depuis à peu près 2000, y compris à la suite d'un mandat présidentiel précédent du président Emmanuel Macron, qui avait confirmé et qui a fermé Fessenheim. Donc, en février 2023, il y a eu un conseil de politique nucléaire, et le gouvernement français a lancé la préparation d'une nouvelle loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, a demandé le lancement d'études pour la prolongation des centrales à 60 ans, un programme de construction de 6 nouveaux EPR, et peut-être 8 de plus, un programme sur des petits réacteurs, une réflexion sur la question du cycle du combustible, et un plan de formation au métier du nucléaire. Donc ça va évidemment, de mon point de vue, dans le bon sens. Et je voudrais quand même poser la question de comment cela est-il possible. Et je vous invite à... alors c'est disponible hein, sur YouTube, par exemple, et même aujourd'hui le rapport est disponible. Donc il y a eu une commission parlementaire qui s'est posé la question de comment tout cela était possible. Ces hypothèses tout à fait abracadabrantes et ces décisions, c'est-à-dire le manque de vision de politique énergétique et de politique nucléaire pour un pays comme la France, qui a conduit à une très très grande difficulté de l'industrie électronucléaire française. Et j'ai pris ici quelques exemples de, voilà, d'auditions. Montebourg était ministre de l'économie et du redressement productif entre 2012 et 2014. On entend qu'il s'est battu contre ces décisions. Et il dit c'est un accord de coin de table. On s'est mis d'accord sur un accord politique de manière à marquer les esprits. On s'est retrouvé avec un programme qui indiquait qu'il fallait fermer X réacteurs. Et après, vogue la galère. Ségolène Royal, qui était ministre de l'Environnement entre 2014 et 2017, hein, vous vous rappelez que la loi, c'est 2015, dit l'objectif de 50% est un accord politique entre le PS et les Verts. Cet accord politique n'est pas techniquement robuste, voilà, par rapport à des études d'impact. C'est un objectif politique au sens où il faut sortir du tout nucléaire. Et Manuel Valls, qui était Premier ministre, c'est d'abord un choix politique. C'est lié à la contrainte de l'accord passé entre le PS et les Verts. Les 50% n'étaient le résultat d'aucune étude d'impact et d'analyse de besoin. C'est absolument dramatique. Et donc, je tenais à profiter de cette occasion pour le dire. Et la question, c'est maintenant, et je termine là-dessus, jusqu'à combien il faut construire de réacteurs si on maintient une politique nucléaire en France. Elle est, semble-t-il, engagée, même si toutes les lois dont je vous ai parlé ne sont pas obsolètes, hein, elles sont toujours sur la table, sont toujours actives. Mais vous avez vu les décisions qu'a prises le gouvernement en matière nucléaire. Mais jusqu'où aller? Je veux juste vous montrer que si on prend les 6 réacteurs, plus les 8 même, vous voyez, on arrive difficilement enfin, en dessous de 40 gigawatts de puissance nucléaire, alors qu'en situation classique, ce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, et qui nous permet d'avoir la lumière là aujourd'hui, c'est autour, c'est plus, enfin, c'est 62-63 gigawatts. Donc, si on voulait arriver à ce niveau-là, maintenir ce niveau-là, qui d'ailleurs ne conduirait pas à 70% si on augmente la quantité électrique, eh bien, c'est beaucoup plus que 14 réacteurs qu'il faudrait construire. Si on ne les construit pas, il va falloir trouver de l'énergie électrique autrement. Et évidemment, c'est la question de quelle part possible des énergies renouvelables éoliennes et solaires qu'il faudra introduire, et sans doute quelle part d'énergie fossile, et en particulier de gaz, il faudra mettre en place pour arriver à assurer la quantité électrique. Voilà. Alors je termine là-dessus, c'est une image du monde. Nous ne sommes pas les seuls hein, à faire du nucléaire. Même si nous sommes un pays très nucléarisé, j'aurais dû le mentionner, hein, qui a été fait dans les années 70 pour tout un tas d'autres raisons que la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'à cette époque-là, il n'était pas question de cela. Mais vous voyez, il y a 442 réacteurs nucléaires sur la planète. Mais ce qui est notable, c'est ces deux choses-là, à la fois qu'il y a beaucoup de réacteurs qui sont en cours de construction, et vous voyez, surtout en Asie, Chine, Inde, Corée du Sud et en Russie. L'Agence internationale de l'énergie, en 2022, prévoyait que la production d'énergie nucléaire aura plus que doublé d'ici à 2050 et qu'au moins 30 pays augmenteront leur utilisation de l'énergie nucléaire. Donc tout indique que ce n'est pas qu'un problème français et que l'énergie nucléaire devra être traitée sérieusement en France, bien sûr, mais aussi dans les autres pays. Voilà, et je termine là-dessus. Si je peux juste rappeler que ces réacteurs asiatiques, pour l'essentiel, vous voyez, Chine, ce sont des réacteurs qui sont beaucoup plus récents, donc ceux-là, ils vont rester longtemps, tandis que les pays de l'OCDE ont des réacteurs beaucoup plus anciens, et que donc la question de leur arrêt prochain se pose, évidemment, modulée par la capacité des gestionnaires de ces réacteurs de les prolonger ou pas. Je vous ai montré que la question énergétique et enfin la question électrique est une question sérieuse, que la situation de la France est tout à fait particulière à cause de ce haut niveau d'électricité et 25% et des perspectives de l'augmenter sérieusement dans tous les scénarios dont que je vous présenterai plus tard, plus en détail. Et que, évidemment, la question s'est posée de façon très bizarre sur la place du nucléaire dans ce pays, dans la production électrique. Je vous ai donné mon sentiment. On revient dans une situation, on revient dans un moment qui est un peu plus raisonnable. Et ceci s'explique parce que, en dépit du fait que s'il faut du nucléaire, il faut aussi exploiter le vent et le soleil et les énergies renouvelables, et c'est ce dont je parlerai le cours prochain, et qu'il faut avoir une véritable vision, une véritable politique énergétique pour bien comprendre la part des uns et des autres, ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, et c'est ce dont on parlera. Dans les recommandations de l'Académie des sciences, vous avez compris tout de suite qu'il y a la question de la prolongation des réacteurs actuels. Il y a aussi la question de la construction de nouveaux réacteurs. Et puis, il y avait un troisième point qui, je crois, n'est pas présent dans le fameux Conseil de politique nucléaire. On ne parle pas de quatrième génération, je crois.
C'est ça, réflexion sur la question du cycle du
combustible. Voilà, c'est ça. C'est réflexion sur la question du cycle du combustible. Mais l'Académie des sciences avait très fortement, dans ce rapport de 2020-21, indiquer la nécessité de travailler et de construire des réacteurs de quatrième génération, les réacteurs à neutrons rapides, dont nous allons parler grâce à Yves. Et donc je vous remercie de votre attention et je vais lui laisser la parole.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.